En termes de dimanche des médias, on est gâté. Parce que Jésus, comme on vient de le voir aujourd'hui, dans cette page d'évangile, c'est un exemple magnifique, c'est un bon communicateur. Comme dit le slogan d'un journal bien connu, le poids des mots et le choc des photos. Le poids des mots. Maintenant, Lazare trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. Le poids des mots, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. On encaisse tout ça. Le poids des mots, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le choc des photos, Lazare, couché devant le portail, couvert de plaies, et les chiens qui viennent lécher ses plaies. Le choc des photos, l'abîme, la fournaise, le lieu de torture, le choc des photos. Mais comme avec les médias, on peut faire parfois une lecture superficielle du poids des mots et du choc des photos. Souvent, les médias pensent pour nous. Ils nous disent qui est le bon, qui est le mauvais. Ce qui est bien, ce qui est mal. Le noir, le blanc. Il y a rarement de la nuance. Et avec une page d'évangile aussi forte, on pourrait faire la même chose. On pourrait en faire une lecture bien superficielle. Ah oui, sans doute, c'est pas très bien d'être riche. Oui, il faut souffrir, hein, il faut souffrir pour entrer au paradis. Et puis, ce Dieu plein de miséricorde qu'on a contemplé dans les paraboles de la miséricorde il y a 15 jours, avec la brebis perdue, avec les deux fils, où est-il? Lui qui crée cet abîme profond, infranchissable. Notre image d'un Dieu bon, miséricordieux, est un peu mise à l'épreuve avec cette page d'évangile. Et là, il y a quelque chose. Il y a une semaine, Bernard nous donnait un bon critère, un critère qui était tiré de la seconde lecture de la semaine dernière, de la lettre de Timothée, de Paul à Timothée, qui disait « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et si nous lisons l'évangile dans un sens contraire que celui-là, c'est sans doute le signe que nous faisons mauvaise route. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et cette page d'évangile, c'est le signe aussi que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les riches et les pauvres. C'est un cri d'amour d'un Dieu pour ses enfants. D'ailleurs, Abraham dit aux riches « mon enfant », il l'appelle « mon enfant ». C'est comme un père qui voit son enfant, ou une maman, hein, qui voit son enfant ne pas aller vraiment dans le meilleur des chemins. Il va attirer l'attention, il va lui dire « fais attention ». Oui, c'est un cri d'amour, cette parabole, c'est un cri d'amour, car c'est une parabole. L'évangile commence ceci, Jésus disait cette parabole. Mais ça, c'est pas, si vous allez lire l'évangile, c'est pas dans, on ne dit pas que c'est une parabole. Et d'ailleurs, les exégètes se sont un peu cassés la tête pour savoir si c'était bien une parabole. Puis finalement, ils ont dit oui, c'est une parabole, c'est pas une histoire vraie en tant que telle, une histoire qui s'est passée. C'est une histoire, comme toutes les paraboles, où Jésus donne des images fortes, où les traits sont soulignés, accentués. Dans toutes les paraboles, même les belles paraboles, la parabole du fils prodigue, il y a les deux fils avec deux caractères bien trempés. Et dans toutes les paraboles, Jésus nous donne des images fortes pour nous faire réagir, parce que ça vient nous réveiller, et on a besoin d'être réveillé de temps en temps. Et c'est la force de la parole, une parole vivante, tranchante, qui vient nous réveiller. Eh bien, laissons-nous réveiller aujourd'hui par ce cri d'amour de Dieu pour ses enfants. D'abord, un cri d'amour pour le pauvre. Il ne faut pas passer au-dessus de ce cri d'amour pour le pauvre. De nouveau, on retrouve une page d'évangile où le pauvre est au centre. Le pauvre est remis au centre par Jésus, comme dans beaucoup des rencontres que fait Jésus dans l'évangile, comme aussi dans une autre parabole que l'on trouve au chapitre 25 de saint Matthieu, le jugement dernier. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Ce pauvre dont le psaume nous a parlé aujourd'hui, Dieu protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Dieu a ses tripes remuées par les pauvres. Et Dieu a voulu s'identifier aux pauvres. Quand Jésus est sur la croix, il est comme ce pauvre. Il est un peu comme ce pauvre Lazare aussi, qui est devant le portail, là, avec des plaies et avec des chiens qui viennent le lécher. On lit parfois le jour de la Passion, ce psaume 22, « Des chiens me servent ». Car les chiens, ce n'est pas les gentils petits toutous qu'on voit aujourd'hui. Hein. Dans la Bible, les chiens, c'est des animaux horribles et répugnants. Ce sont ceux qui sont méchants, même, qui nous font mal. Et là, les chiens ne viennent pas chez Lazare pour lui donner des petites doudous. Ils viennent lécher ses plaies. Cette image, parfois, peut nous bouleverser, mais on voit des choses semblables aussi, parfois, dans notre monde, où les pauvres qui attendent quelque chose deviennent presque la nourriture des autres. Ils sont jetés comme en pâture. Et pourtant, ce pauvre, c'est le seul qui a un nom dans cette parabole. Dans les paraboles, il n'y a personne qui a un nom, sauf ici, il y a Lazare. Lazare, c'est celui qui est nommé. Le riche, on ne connaît pas son nom. Ça a même été tellement difficile à accepter que j'ai passé quelque temps en Espagne où on me parlait toujours de la parabole de Rico, Epulón y de Lázaro. On avait donné un nom au riche. Ça semblait tellement scandaleux que le pauvre puisse avoir un nom. On a donné le nom d'Epulón au riche. Il paraît que ça vient de celui qui fait des banquets. Epulabatur, c'est ce que dit le texte latin aussi. Et on lui a donné le nom d'Epulón. C'est un peu le monde à l'envers. Dans notre monde aussi, c'est plutôt les riches dont on voit les grands titres dans les journaux. C'est plutôt les riches dont on parle. Et quand on nous parle des pauvres, c'est plutôt de manière anonyme. Lors d'un tremblement de terre, lors d'une famine, lors d'une inondation, on voit des foules. Mais Dieu donne un nom aux pauvres. C'est le pauvre qui est au centre. Et ce pauvre, on nous dit qu'il est conduit auprès d'Abraham. Lorsqu'il mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le texte dit « dans le sein d'Abraham ». Comme Jean à la scène qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il vient à la place privilégiée, à la première place du banquet. C'est là qu'est le pauvre. Mais pas particulièrement parce que le pauvre est bon, mais parce qu'il a faim et soif. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Et le pauvre est resté là, toute sa vie. Il n'est pas reparti, il a espéré, contre toute espérance. Et c'est ce que Dieu voit aussi dans les pauvres. C'est qu'ils ne sont pas repus, c'est qu'ils sont toujours en chemin, c'est qu'ils cherchent, c'est qu'ils demandent. Et le Seigneur nous demande aussi d'être en attente, de ne pas nous sentir repus, satisfaits, installés. C'est ça, la beauté du pauvre. C'est ce que dira Jésus aussi dans les Béatitudes. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim et soif. Cri d'amour pour le pauvre, mais aussi cri d'amour pour le riche. Comme je le disais, c'est une sorte d'avertissement que lance Jésus à travers cette parabole pour les riches. Est-ce que la richesse est mauvaise en soi ? Non. Et d'ailleurs, le riche n'est pas mauvais. Je trouve que c'est un peu injuste envers le riche d'appeler cette parabole, comme on le fait souvent, la parabole de Lazare et du mauvais riche. Ça nous dédouane un peu. Il est riche, mais il est mauvais en plus. Il est mauvais en quoi ? En quoi est-ce qu'il est mauvais ? On ne nous dit pas que le riche injurie Lazare, on ne nous dit pas qu'il lui fait mal, simplement il ne le voit pas. Et ça c'est déjà très fort. Le riche, c'est comme vautré dans sa richesse, comme dit Amos. Amos aussi, hein, c'est un communicateur. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles, ceux qui se croient en sécurité, couchés sur des lits d'ivoire. Ils mangent les meilleurs agneaux, ils improvisent des fêtes. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums. Mais ils ne se tourmentent guère du tourment d'Israël, du désastre d'Israël. Le problème de la richesse et le risque de la richesse, c'est de l'idolâtrer et de se vautrer dans la richesse. Est-ce que c'est mal de faire la fête ? Non, Jésus aimait faire la fête. On l'a battu à Cana. Jésus aimait le vin. Jésus aimait manger. Mais ici, le riche, il vit dans le luxe et il fait des festins tous les jours. C'est comme s'il était esclave de ses festins. Il ne peut plus s'en passer. Et il a fait de sa richesse une sorte d'idole. Il a construit autour de lui quelque chose où il ne voit plus les autres. Il ne voit plus que sa richesse. Il ne voit plus que sa prospérité et il s'y vautre. Et c'est là qu'est le danger. C'est là qu'est le danger de la richesse, lorsqu'elle nous enferme. Et on a tellement d'images dans notre monde aussi d'une richesse qui enferme. Si vous avez voyagé un peu, même parfois en Belgique, on le rencontre, mais on voit parfois de ces contrastes entre des quartiers riches et des quartiers pauvres, des quartiers qui sont presque barricadés avec des vigiles à la garde des chiens, précisément, pour empêcher les gens de rentrer. Et puis à côté, les bidonvilles qui entourent. Et on a presque envie de crier vengeance devant ces images. Pourtant, je ne pense pas que c'est par mauvaise intention qu'ils le font, mais voilà, il y a une coupure qui s'est faite. Il y a des murs qui se sont installés. On est rentré dans une prison dorée. La richesse, qui est un bien, est devenue comme une sorte de mur qui nous enferme. Et l'abîme dont va parler Abraham aux riches, l'abîme, il a commencé à se creuser déjà de la vie du vivant, de la vie du riche. Il était là en train de creuser ce mur. Lazare n'était pas à sa porte. Lazare était à son portail. Il était loin, à portée de vue. La richesse a pris tellement de place qu'il ne voyait plus. On dit parfois de quelqu'un, une femme, qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle ne voit plus où sont ses pieds, même. Eh bien, la richesse, ça peut être un petit peu la même chose. Et toutes sortes de richesses. Parce que on peut voir les autres, mais on les voit de loin. Parfois simplement comme des clients, comme des gens qui nous servent, ou bien comme des gens, on les voit avec condescendance. Mais on a bâti, à partir de nos richesses matérielles, ou de nos richesses spirituelles, de nos richesses intellectuelles, une sorte de fossé, d'abîme entre eux et nous, où la fraternité n'est plus possible. C'est ce qui s'est passé avec le riche et avec Lazare. Et même si c'est peut-être un peu exagéré, j'entends dans la demande du riche à Abraham, Père, envoie Lazare pour me tremper le bout de son doigt et me toucher la langue pour me rafraîchir. Il ne voit pas encore Lazare comme un frère. Il ne demande pas à Abraham, Père, fais que je puisse passer pour être avec vous et pour être avec Lazare. Il voit encore Lazare un peu comme un serviteur, quelqu'un qui est là pour lui rendre service, mais pas encore comme un frère. Voilà ce cri d'amour de Dieu. Un cri que nous avons à recevoir tous, à écouter Moïse et les prophètes, car c'est là qu'est la pointe de la parabole. C'est là le message de la parabole. Écoutez Moïse et les prophètes. Écoutez non pas simplement distraitement, mais faites que cette parole prenne racine en vous et qu'elle produise en vous des fruits de fraternité. C'est le travail de toute une vie. C'est pour ça qu'on vient régulièrement écouter la parole de Dieu, on vient se laisser travailler par elle, parce que Dieu est un Dieu qui veut sauver tous les hommes, un Dieu qui nous aime, et qui veut que nous nous sauvions tous ensemble, riches et pauvres. Alors demandons au cœur de cette Eucharistie de recevoir la grâce de la fraternité, de recevoir la grâce de pouvoir nous regarder dans nos richesses et nos pauvretés mutuelles comme des frères et sœurs, qui avançons ensemble sur le chemin vers Dieu.